Bienvenue sur
Tokyo Yui.
Oula, oh le boys band là. Ça suffit fort. Là. Alors donc du coup, bienvenue sur Cool FM pour l'émission Tokyo Yui, la seule émission qui traite du manga, de la pop asiatique, des jeux vidéo, des dramas, des yaoi, des hentai, de la cuisine, du cinéma. Enfin bref, de plein de trucs, alors toujours en rapport avec l'Asie et surtout évidemment le Japon, la terre promise j'ai envie de dire. Et donc du coup, allez découvrir plein de choses ce soir. Alors soit des trucs que vous connaissez pas du tout, soit des trucs que vous connaissez mais vous n'allez pas les apprendre de la même manière que
vous avez
appris quoi. Ce sera pas conventionnel quoi, ça sera façon Tokyo Yui quoi. Donc vous allez passer 2 heures de free non-stop, donc voilà, 1 heure de dossier ou autre, 1 heure de musique. Vous allez passer une soirée de malade. Alors on va commencer tout de suite la présentation de la team parce qu'ils vous ont fait des dossiers de ouf. Et celui qui nous fait les meilleurs dossiers, j'ai envie de dire... en fait non, il y a personne. on va éviter comme ça, on va tout de suite dire bonsoir à notre cher ami le professeur Capi.
Nouveau surnom.
Voilà, donc du coup depuis la semaine dernière alors à ce qui paraît t'as été menacé par la Corée du Sud, j'ai envie de dire.
Et par sa représentante qui s'appelle Candice, je crois.
C'est Candice. Candice Park. Exactement, c'était elle. Donc du coup, notre ami Capi est revenu. On a aussi notre ami Chamallow, applaudissez d'abord. Chamallow qui aura peut-être une petite histoire, un peu de référence geek. Aujourd'hui, professeur d'histoire, j'ai envie de dire. Aujourd'hui.
Exactement. D'accord. J'ai même des lunettes de professeur d'histoire.
D'accord, qu'on ne voit pas, mais
oui,
il les a.
Mais je les ai.
Ah ouais, il les a pas parce que simplement il y a un mec à côté qui lui a volé ses lunettes. C'est lui, c'est le voleur. C'est celui qu'on appelle
le
Abbé Pierlu. Ça va Abbé Pierlu?
Bah ouais.
Ok, super. C'est là qu'on regrette d'avoir invité certaines personnes.
Ça va, si tu veux parler de Jésus, si tu veux.
Ok. Alors le mec, je te jure. Enfin bref, donc du coup on continue la présentation de la team avec notre cher ami Botan. Ça va Botan?
Ça va et toi?
Ouais, mais je bloque surtout sur la VIP qui est à côté de toi quoi.
Ah bah ouais.
Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle là, oui.
Alors, attends, c'est écrit quoi sur ses lunettes?
Attends, je vais te dire.
Pauvre.
C'est marqué forum des hébergeurs.
Applaudissez Coulodo s'il vous plaît.
C'est Coulodo, il y a les hébergeurs.
Ah bah oui, ça j'ai vu ça. C'est dommage parce que ces lunettes avaient l'air... Non, elles avaient pas l'air...
Non, elles avaient
rien du tout.
Allez, donc du coup, la semaine dernière, il venait en tant que fan. Cette semaine, ils reviennent justement, mais là, cette fois-ci, ils ont du bagage, quoi. Ils ont du lourd, quoi. On applaudit tout de suite notre inspecteur Canasson, s'il vous plaît. Qui fera son premier dossier ce soir, j'ai envie de dire.
Voilà. J'ai enquêté longuement dessus.
Voilà, pas de soucis. Et justement, alors, notre héros, celui qui sauve la veuve et la veuve.
L'orphelin.
Bah, non, l'orphelin, il en a rien à foutre.
Non.
Ils s'en foutent complètement. Allez, applaudissez le chevalier solaire.
Les veuves sont.
Et celui qui nous amène les 15 000 vues à chaque fois, c'est notre cher Alex 2000. Applaudissez-le.
Bonsoir.
Et là, les gens, ils sont en train de compter, ils disent, mais ils sont combien dans cette équipe, là? Et le pire, c'est qu'il y en a, ils doivent dire...
On est 42.
Elles sont où, les filles?
Voilà. Bah,
il y en avait. C'est juste que vous n'avez pas compris. Capi, Coulodo, tout ça, c'est... Voilà. C'est pas du mal, ça. C'est des filles sexy. C'est professeur, quand on disait professeur Capi, c'est professeur copine. Bon allez, donc du coup, vous allez passer une heure de folie non-stop avec nous. Et on va commencer tout de suite avec la musique. Et donc, pour commencer, on va faire plaisir à notre cher ami Capi, qui la semaine dernière nous a amené son album, sa compile K-pop, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc du coup, il revient avec son album K-pop. Et donc, cette semaine, il va vous parler d'un artiste coréen. Qui est super d'ailleurs, même moi j'adore, je vous l'avoue. Et donc du coup, son single s'appelle... Je suis en train de chercher en fait, c'est pour ça. Alors, le single s'appelle Me Like You. Donc c'est choisi spécialement par Capi. L'artiste s'appelle Jay Park. Il aurait pu s'appeler Jay Park ou Jay Lee. Mais bon, de toute façon, il s'appelle Jay surtout. Et donc du coup, c'est un énorme artiste en Corée. Et donc voilà, Capi en est fan et je pense que vous aussi vous le serez quoi. De toute façon, si professeur Capi dit écoutez, eh ben vous écoutez tout simplement. Allez, c'est tout de suite en totale exclusivité sur Tokyo Yui.
내 움직임에 나는 미쳐 조금 더 가까이 다가와 애타게 기다리고 있어 Give me that work like you really go 너는 내 진이 난 성원을 빌지 Oh let me see that thing baby 지금 이 순간이 내가 기다려왔던 그 시간이야 너의 몸짓을 보면 네가 뭐 원하는지 감이 와 영원히 안기고 싶어 So baby girl wake up, let's get it started Stay up, stay up, gotta be on it 가지마 나라면 괜찮아 리더 계속 baby 따라와 Baby, baby girl 거부할 수 없는 나의 지금 모습 I hope you know it, I hope you know it
Voilà, donc ouais, c'était Jetpack. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment K-pop, ces petits moments musicaux, ça vous a réveillé. Donc du coup, j'espère que vous allez donner cette chance à cette fabuleux artiste qui s'appelle Jay Park et qui franchement fait de la bonne musique. En plus, voilà, comme le dit Capi, il est trop mimi, donc du coup, j'ai envie de vous dire, vous
signé
êtes obligé d'écouter.
Quoi.
Ah, bah, signé professeur Capi, oui, le professeur, quoi. Allez, donc du coup, maintenant, je vous propose, c'est d'un peu d'actualité manga et animé. On va commencer tout de suite avec le film de Fairy Tail, donc qui est sorti au Japon et qui s'appelle Fairy Tail Dragon Cry. Alors, donc, il a généré, ah, attention, hein, plus de 53,88 millions de yens en seulement une semaine.
T'aurais dit dollars, ça aurait été un peu plus.
C'est totalement un mauvais démarrage.
3 euros.
C'est pas terrible, on va dire. Sinon, on a vu le nouveau trailer de Resident Evil Vendetta. Donc, du coup, un nouveau film qui va mettre en avant les héros de la saga Resident Evil. Vous avez notamment celui-là, deux grands héros, alias Chris Redfield et Leon Kennedy. Et voilà, le dessin animé a l'air plutôt sympa. Après, je pense pas qu'on va le voir tout de suite. Mais après, c'est la saga Resident Evil. Donc, en général, ils sortent quand même en France. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont fans de SAO, sachez que vous pouvez aussi aller voir le film au cinéma. Donc, du coup, vous avez Alex Demine qui allait le voir, alors il était comment ?
Et toi dans l'ambiance ?
Ah bah le film était extraordinaire, hein, évidemment, on s'est plongé directement dans le jeu, hein, c'était à couper le souffle. Hein.
D'accord, alors est-ce que les gens qui étaient dans la salle ont regardé le film, ou en plus, voilà, ils se disent, ouais, il y a Alex 2000, on va faire des selfies.
Entre mes fangirls, les personnes
les
qui étaient là,
oh là, là
et les personnes qui étaient là qui me servaient de paillasson, j'ai pas trop fait gaffe. Hein.
Voilà, le petit Alexandre, c'est ça, notamment, voilà. Allez, c'est tout pour la news manga animé, on évite de trop en dire, parce qu'on a quand même du très très lourd qui nous attend. Et justement, alors, au niveau dossier manga, c'est notre cher ami Inspecteur Canasson qui va vous parler voilà, d'un manga qui n'a pas encore terminé, tout simplement parce qu'il a envie de déguster, j'ai envie de dire. Voilà.
Parce que niveau argent, je suis comme notre cher Angel.
Ah, cher Angel Kulodo, ouais, c'est quoi Angel? C'est marque de cul, ça. Ok. Alors, donc, du coup, tu vas nous parler de
Ariadne.
Voilà. Alors, c'est parti.
Alors, Ariadne, c'est un manga qui a été écrit par Kyoichi Nanatsuki, publié entre mars 2012 et janvier 2016 dans le magazine Weekly Shonen Sunday.
Ouais.
Il a été dessiné par Yang Kyung-il, qui est un dessinateur coréen, mais ça reste un manga.
Et qui dessine extrêmement bien. Très, franchement, très bien, oui. il est du niveau de Obata. Hein.
Les
dessins, celui qui a fait Death Note.
Sont extrêmement détaillés.
D'accord. Et pas encore celui du niveau d'Angé.
Ah bah non, donc, pour apprendre à dessiner de la merde, il faut s'entraîner.
Filles, hein.
Alors, vas-y.
En France, il est publié chez les éditions Pika. Mm-hmm. Il y a au total 14 tomes, et donc le manga est officiellement terminé.
D'accord.
Alors, le début de l'histoire nous entraîne dans un monde où 12 ans auparavant, il y a une étoile qui a explosé. Une étoile qui s'appelle Antares, et qui a provoqué des mutations chez certains humains. Donc ils ont obtenu des pouvoirs assez particuliers. Mm-hmm. On les appelle les Altered, et les humains normaux ont essayé de cohabiter avec eux tant bien que mal, j'ai envie de dire, mais ça fonctionne pas très bien puisque certains Altered profitent de leur pouvoir pour par exemple braquer des banques ou simplement tuer des gens.
Ah les salauds.
Et ce qui a réellement déclenché une répression des humains envers les Altered, c'est un jour une catastrophe, la catastrophe de Range, qui a fait des dizaines de milliers de morts, car un altered n'a pas pu contrôler ses pouvoirs et donc il a fait un massacre.
D'accord, ok.
Les humains ont donc décidé de créer une zone spéciale sur une île qui est complètement isolée du monde pour y enfermer tous les altered. Donc c'est l'Areadi.
Ok, d'accord.
Donc l'histoire nous place dans le point de vue d'un jeune altered qui s'appelle Satoru Ida. Il va être expulsé de force sur l'île alors que ses pouvoirs n'ont jamais causé de problème. Mm-hmm. Et faut savoir que personne n'est jamais ressorti de cette île. Donc son pouvoir ça s'appelle l'automécano. Et on va dire que c'est un peu un des pouvoirs qui à première vue a l'air le plus pourri de tout le manga.
C'est bien cool auto.
Puisque il lui permet simplement de décomposer tout objet qu'il touche avec sa main droite.
Ça peut être très dangereux ça.
Très dangereux.
Donc tout ce qui touche par mégarde voilà, c'est décomposé. Par exemple vous prenez une montre, il la touche, tous les rouages etc. sont mis en pièces.
D'accord, ok.
Donc il va embarquer dans un paquebot vers l'Areadi avec d'autres altered. Il va faire la connaissance de Jin Kazaragi, qui est un des altered les plus redoutés de tous. Mais personne ne connaît son pouvoir, même ceux qui s'occupent de garder l'île.
J'ai cru même lui.
Ok, ça serait balou.
Si, lui le connaît. Donc du coup, bien sûr, ils vont essayer de trouver un moyen de sortir de l'île, mais surtout, il va falloir y survivre, parce que avec tous les altered, ils essayent un peu de s'entretuer. Donc justement, il y a une certaine hiérarchie qui s'est installée sur cette île, puisqu'il y a 4 clans différents qui se sont formés. On a le quartier sud, le quartier est, le quartier ouest, et pour un peu plus d'originalité, le conseil des surhommes.
D'accord. Je m'attendais à un truc moins...
Donc quand on arrive, c'est conseillé quand même de rejoindre un des clans, parce que sinon, tout le monde est ton ennemi.
Ce qui est pas cool.
Et il y a un peu souvent des grosses bagarres, et c'est assez dangereux, voilà. Donc à l'arrivée, chaque altered reçoit une carte magnétique avec 3 croix dessus. Donc si jamais
comme les avertissements au collège.
Ça marche un peu pareil, mais ah,
la punition est pas la même.
C'est pas une heure de colle que tu vois que tu chopes.
S'il fait,
c'est
une mort.
En gros, à chaque fois que un altered fait une action que les gardes jugent répréhensible, on va leur supprimer une croix. Donc par exemple, imaginons, ils provoquent une énorme bagarre générale où ils agressent des gardes. Et ben c'est une croix en moins, et au bout de 3 croix, ils sont exécutés. Net.
Ils sont mis au coin.
Sans sommation.
Voilà. C'est efficace.
Il faut savoir que les gardes niveau armes, ils sont plutôt badass. Hein. Ils ont des tanks hyper blindés pour pas que les pouvoirs les défoncent.
Niveau, si ils ont juste un petit couteau.
Voilà. Donc au niveau des personnages, c'est quand même assez classique. C'est un shonen et on a le personnage principal qui est assez craintif, qui sert maladroitement de ses pouvoirs. Hein. Puisque à plusieurs reprises il va toucher un truc, oh merde, je l'ai démonté.
Comme par hasard. Oh là là.
Oh non.
Et puis
comment
le remonter en même temps, ce serait cool.
On a le personnage extrêmement puissant qui est Jin et qui va finalement mener les autres personnages durant tout le manga. Et on va avoir énormément de combats qui sont très bien détaillés, puisque le dessinateur, comme on disait tout à l'heure, fait de très beaux dessins.
D'accord.
Donc il y a un truc qu'on remarque vachement dans les premiers tomes, c'est on sent en gros que les humains normaux, on va dire, ils ont une grande crainte d'être surpassés par les êtres supérieurs que sont devenus des altered. En gros, ils refusent un peu l'évolution, et c'est pour ça que du coup ils décident de les mettre carrément tous à part, quoi.
D'accord, donc, ouais. Donc, c'est genre une critique un peu un petit peu de dire bah ils sont pas comme nous, on va les virer de côté parce que c'est dangereux. Et on verra ce qu'on en fait après si on les tue pas tous.
C'est ça, bah déjà
ils
les laissent un peu s'entretuer, ouais, comme ça.
Ça les arrange.
Donc, pour finir, pour ce qui est un peu de mon point de vue, sur les 14 tomes, on a une action qui est vraiment très omniprésente, on s'ennuie jamais, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à tous les tomes, on découvre de nouveaux personnages, et qu'ils ont toujours un impact important sur la suite du manga, donc du coup, on a une histoire pleine de rebondissements et qui est très prenante.
D'accord, ok. Et si tu devais lui mettre une petite note à ce manga, alors ?
Je pense que je lui mettrai un petit 17.
Un petit 17 ?
Ouais.
Eh ben écoute, on commence bien la soirée, on l'appelle très fort. Voilà. Un bon manga d'action, j'ai envie de dire, avec des personnages charismatiques et surtout, oui, comme j'ai dit, un dessin qui est vraiment vraiment au top, quoi. Bon, après par contre les pages sont très 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 chargées, hein. Il y a du détail, hein.
Ouais,
ce qui peut être limite après, en fait, des fois c'est limite trop, quoi.
On n'aura jamais pire que Tokyo Ghoul Re en termes de surchargement.
Ah mais, bah ça vous verrez ça.
Enfin, il y a des mangas qui font des trucs très détaillés et qui sont très bons, hein, comme Bright Story.
Il y a des dessins extrêmement détaillés mais très beaux.
De toute façon, et un scénario développé.
On vous laisse juger de tout ça. Vous êtes toujours sur Color FM pour l'émission TQ. Mais maintenant, eh ben, on va voir un peu de culture geek, j'ai envie de dire. Vous avez du culture et du geek avec notre cher Michel Malou qui va vous parler justement de références mythologiques. Mais d'un point de vue d'un jeu vidéo en plus.
Voilà, c'est ça.
Donc, en fait, t'as mélangé tous les dossiers de tes
Jeux. Ouais, je me suis dit, allez, on fait un petit mix parce que je savais pas. Voilà, c'est le Joker, exactement.
D'accord.
Alors, du coup, est-ce qu'il y a des joueurs de Fire Emblem ici? Ou est-ce que des gens qui connaissent?
Oui, moi.
D'accord, allez, bah, vous savez tous que dans Fire Emblem, il y a des noms assez bizarres ou des armes, on sait pas trop d'où elles sortent. Non, par exemple Sieglinde, Siegmund, on sait jamais trop. Alors je me suis penché du coup sur les références mythologiques qu'il pouvait y avoir dans ces jeux. Et du coup j'ai pris les armes de Fire Emblem 8 je crois, donc The Sacred Stones, le jeu qui est sorti sur GBA. Et du coup il s'est trouvé que ces noms d'armes étaient des références mythologiques à la mythologie scandinave et nordique. Alors du coup nous allons nous déplacer dans les pays scandinaves et je vais vous raconter l'histoire du monde dans la mythologie scandinave. C'est parti. Alors du coup, nous avons commencé par la création du monde. Au début, il y avait un vide qui s'appelait Ginnungagap. Aha.
C'est très parlant.
Et le vide, en fait, a été séparé par le feu du sud et la glace du nord. Et un jour, le feu du sud et la glace du nord se sont rencontrés dans un choc très violent. Et ça a fait comme un guise, blé, comme ça. Et ça a donné la naissance de Aoudoumla, du coup, qui est une vache. D'une vache et de plusieurs blocs de glace qui étaient parsemés un peu partout sur la terre. Alors la vache a léché en fait les blocs de glace pour donner naissance à un géant.
Et pour léché bon l'air.
Non.
Sa femme de glace.
Oui, elle a léché ses frères, exactement. Elle a léché les blocs de glace et du coup le premier jour, un jour alors qu'elle léchait un bloc, des cheveux sont apparus du bloc de glace, normal. Deuxième jour, une tête est apparue, super cool, une tête à coiffer. Et troisième jour, le corps était entier. Donc du coup, nous assistons à la naissance de Bouri, le premier être vivant en fait après la vache du coup. Alors du coup il se trouve que Bouri est le grand-parent de Odin, Vili et Vé. Donc Odin est le Zeus en fait des Grecs, mais non.
C'est le roi des dieux en fait.
C'est comme le roi des dieux mais dans les pays scandinaves. Et donc du coup Bouri, ce grand-parent, il va engendrer Odin, Vili et Vé. Et ses trois frères vont tuer Ymir, donc le géant qui est né grâce à Odumla. Et ils vont le tuer parce qu'ils l'aiment pas, tout simplement.
Parce que pourquoi pas?
Parce que pourquoi pas? Ymir était un géant qui était genre vraiment un géant, pas un titan, genre un géant puissance 100 quoi, voilà. Encore
c'est un titan colossal.
Et fait totalement de glace.
Et il se trouvait qu'en fait il se nourrissait des rivières créées par le lait qui coulait des pieds d'Aoudumla. Donc par les quatre rivières qui sont des rivières qui existent actuellement. Et quand Ymir est mort, ils se sont servis en fait de son corps pour créer le monde. Donc du coup de ses cheveux ils ont fait les arbres, de ses os ils ont fait les montagnes, et de son sang ils ont fait les rivières. C'est très sexy.
Très belle métaphore.
Donc du coup nous pouvons trouver une référence à Fire Emblem avec Odin du coup, qui est appelé Orsin en fait dans Fire Emblem. C'est juste pour pas que ça ressemble trop, comme si on copiait le devoir d'un pote. Voilà, c'est ça. Alors il se trouve que Odin dispose d'une lance sacrée qui s'appelle également Gungnir, exactement. Et du coup cette arme est également présente dans Fire Emblem. Il est nécessaire aussi de rappeler que Aoudumla est aussi une épée dans Fire Emblem, donc une épée très forte, hein, très violente.
C'est une lance complètement cheat.
Voilà, c'est ça, en fait, c'est toutes les armes cheatées qui viennent de la mythologie scandinave. Petit message. Alors maintenant, nous allons passer à un autre chapitre qui s'appelle la prophétie Fenrir. Alors, il s'agit en fait de Loki, qui est appelé Loptyr dans Fire Emblem, qui est le frère de... Alors, oui, non, oui, c'est Loki qui donne naissance à elle et à Jormungand. Et puis, il donne également naissance à Fenrir. Donc, Fenrir est un loup, elle est la reine des enfers, et Jormungand est le serpent de Midgard. Midgard, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, Fenrir, le loup géant, faisait très peur à tout le monde, il était très fort et très violent, et il se montrait de plus en plus agressif. Un jour, un prophète est allé parler à Odin, et elle lui a dit « Attention, Fenrir sera à l'origine d'un grand malheur !» Alors du coup, Odin s'est dit « Allez, on l'enchaîne, c'est fini !» c'est fini. Va à la maison.
Allez.
Alors pour ce faire, il essaye de récupérer en fait des ingrédients très spéciaux pour créer un lien incassable qui est aussi fort qu'un fil de soie, qui s'appelle Gleipnir. Et les ingrédients pour faire ce lien sont la salive d'un oiseau, par exemple, les traces de pas d'un chat, et puis le chant d'une vague, voilà, par exemple. Bon, c'est des ingrédients comme ça.
Des choses assez mystiques.
Donc, du coup, nous avons Fenrir, enchaîné par Gleipnir, qui sont toutes les deux des armes de Tom de magie noire dans Fire Emblem. C'est marqué là. Créé à partir de bruit de pas de chat, salive d'oiseau et souffle de poisson. Très sexy.
Surtout le souffle du poisson. Non. Le poisson, non. C'est facile.
Ouais, c'est ça. Et du coup, maintenant, nous allons regarder un petit peu l'arbre d'Yggdrasil, le fameux que l'on peut voir dans quasiment tous les jeux vidéo. Non, peut-être pas quand même, mais il y a énormément de références à cet arbre d'Yggdrasil et puis à ses feuilles. Donc du coup, cet arbre est l'arbre des mondes, en fait. Donc il y a un serpent qui vit en dessous, et il est représenté sous forme d'Yves géant. Et le serpent mange les racines, en fait. L'arbre, il porte également tous les mondes différents, en fait. Donc les neuf royaumes qui sont symétriquement opposés. Par exemple, Mulsepehem, Nilfheim, donc du coup feu et chaleur glace, Nulfheim et Mulpesheim, donc du coup qui sont le feu et la chaleur, ils sont opposés. Et ensuite il y a Vanaheim et Jotunheim, donc la création et la destruction. Il y en a plein d'autres comme ça.
C'est Jotunheim et Valahan. Enfin, bref, c'est un peu bizarre de toute façon.
Merci.
Pouvoir tort, c'est pour ça.
Nah. Et donc, du coup, la légende raconte que Odin a été pendu à une de ses branches pendant 9 jours. Et puis, c'est là qu'il apprend à lire les runes qui étaient gravées dessus, tout simplement. C'est ça.
Pendez-vous.
Je devrais essayer.
Pendez-vous à un arbre et devenez.
Et donc du coup dans Fire Emblem il y a également un arc très fort qui s'appelle Nidhogg. Et du coup dans la mythologie scandinave, Nidhogg est un putain de serpent qui mange l'arbre par les racines. Donc c'est celui qui se trouve en dessous. Et il y a également la présence d'une lance qui s'appelle Vidofnir, donc une lance légendaire également, qui est un putain de coq qui se prélasse au sommet des branches. Donc il fait rien de toute l'histoire, il est juste là pour faire.
Ouais, bah, en gros il est en haut de l'arbre Yggdrasil qui est un peu l'arbre de vie, tu vois, et il se pose en haut au calme.
Et lui il est en haut, il chante, il
pompe.
Non, il pompe pas.
Genre ça moule comme la vache, tu vois, genre il a rien à foutre là mais il est complètement pété.
Mais est-ce qu'il fait du lait lui?
Et voilà, et donc du coup nous avons fini avec l'arbre d'Yggdrasil. Maintenant nous allons aborder l'avant-dernier point en fait de ce petit point mythologie. Alors je vais vous raconter l'histoire de Sigmund et Sigglind. Alors du coup, je prononce sans doute très très mal, hein, mais bon. Alors c'est dans Fire Emblem, c'est une épée et une lance qui sont extrêmement fortes. Donc l'épée et la lance jumelles qui sont vraiment très forts jusqu'à la fin. Dans l'histoire, c'est Volsung, le fils d'Odin, qui a 10 fils et une fille. Donc du coup, parmi les 10 fils, il y a Sigmund du coup, qui est jumeau de Sigglind, donc la fille, et il se trouve que Sigmund se voit attribuer une épée magique. Donc Odin, son grand-père, lui donne une épée magique super cool qui fend l'acier et tranche la roche. Waouh. Alors du coup Sigmund se marie avec le roi des Goths, et lors des noces, c'est un peu comme les noces funèbres un petit peu, mais tous les frères sont capturés et ils meurent un par un sauf Sigmund qui survit. Et du coup Sigmund est tellement obsédé par son désir de vengeance qu'elle jette un charme à son frère, et après son frère couche avec elle, ce qui donne naissance à un garçon. Et ensuite le garçon et son père vont aller taper le roi des Goths pour le défoncer. Et ensuite Sigmund, elle avoue sa liaison incestueuse avec son frère, se jette dans le feu, et Sigmund devient roi.
Ça fait un peu Game of Thrones quand même.
C'est tout à fait sexy, hein. Mais bon, après, c'était tout à fait normal. Et maintenant, nous allons enchaîner avec ma partie préférée, le Ragnarok, donc la fin du monde.
Ce bordel.
Aïe, 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 ça ne rigole plus. Alors, le Ragnarok est annoncé par le Fimbulvetr, alors du coup, qui est le nom d'un hiver très difficile qui précède la fin du monde.
C'est un sort de vent dans Fire Emblem.
Oui, c'est un sort de vent dans Fire Emblem, super puissant. Fenrir se libère, donc Fenrir, je rappelle, c'est le gros loup qui est enchaîné par Gleipnir. Il mange le soleil, il tue Odin et il meurt contre Vidar. C'est pas mal dans le CV, ça fait plaisir.
Il s'entretue avec Thor.
Oui, hein. ouais, c'est ça en gros.
Il s'entretue avec Thor. Oui, ils ont perdu Odin et Thor en une bataille contre un gars.
C'est ça. Et du coup, nous avons également l'arrivée de Garm. Garm qui est une hache dans Fire Emblem, un cerbère à quatre têtes qui garde l'entrée du début de Ragnarok. Donc c'est le portail en fait qui lie les deux mondes. Et nous avons également Ivaldi, le gardien de la fontaine de Elvergmir.
Bon courage.
Bon, Vergelmir, on va dire. Voilà. Et nous avons également Naglfar, donc qui est un bateau qui est construit entièrement avec les ongles des morts. C'est super dégueulasse. Qui est piloté.
Juste à imaginer là.
Qui est piloté par Ymir.
Il est noir, genre.
Nah. Ouais, c'est ça. Il est noir et il pue. Et donc, du coup, dans tout ce théâtre apocalyptique, nous avons quand même une fin qui est sympa. Donc du coup il y a Nidhogg qui arrive du ciel, donc Nidhogg le serpent, il vole et il porte les cadavres et il marque la fin de l'événement.
Voilà.
Fin du monde, fin. Et fin de l'histoire. Ouais, j'espère que vous avez apprécié.
Fin du monde, mais aussi, il faut dire que le Ragnarok de cette mythologie-là est particulier, parce qu'en fait, il annonce aussi le renouveau d'un monde. C'est pour ça qu'il y a Nidhogg qui revit et qui va recréer un autre monde, etc. Donc en fait, c'est un cycle continu.
Voilà, c'est ça. Pour la, cool, la prochaine fin du monde avec Alex 2000.
Okay, voilà. Oui, allez, je suis le grand méchant dans l'histoire.
Eh ben, on en a appris des choses là ce soir. Hein.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il mange les racines, parce que comme ça, il contient la force de l'Yggdrasil et il peut le replanter, etc., etc.
Donc, en fait, c'est pas méchant.
En fait, c'est exactement
ouais,
ça.
C'est ça.
Non, Nidhogg, en fait, c'est le plus bas des êtres.
Mais c'est juste un putain de serpent.
Et c'est marrant parce que là, tu vois, j'ai regardé un dessin animé qui traite de tout ça.
Mais et, oui, on le croise
pas. Je pensais
pas
en fait. C'était Saint Seiya, la dernière série. Avec les chevaliers d'or en fait qui vont à Asgard et, et c'est vraiment passionnant quoi. Mais tout ce que t'as dit, ils l'ont sorti.
Ouais, c'est ça, mais de toute façon, jamais un arbre que... de vie dans un jeu, c'est l'Yggdrasil.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est
et ça. Bah écoute, en tout cas, c'était vraiment cool. Ouais. Et vous êtes toujours sur Cool FM pour l'émission Tokyoumé. Si vous aimez tout ce qui est cool, et bah vous allez aimer le Chevalier Solaire qui va vous parler justement d'un dessin animé manga, voilà, on va dire le tout. Voilà, ouais, c'est tout. Et qui a très bien marché au Japon. Qui, je l'espère, va bien marcher en France parce qu'il mérite le succès. Et ça s'appelle comment ?
Atom The Beginning.
Allez, c'est parti pour le dossier du Chevalier Solaire.
Alors, Atom The Beginning, c'est un manga écrit et dessiné par Tetsuro Kasahara. En France, il est édité chez Kana et il y a pour l'instant 3 tomes disponibles. Mm-hmm. Mais il est aidé par Makoto Tezuka, qui est en fait le fils d'Osamu Tezuka, celui qui a créé Astro Boy.
Celui qu'on appelle le papa du manga.
Ou en français, voilà, Astro le petit robot.
C'est ça.
C'est très célèbre.
Ce qui est pire.
Horrible.
Oui.
En plus, boy, ça veut pas dire petit robot.
Oui, mais c'est pas grave.
Non, sans déconner.
Non, c'est logique. Et du coup, ce qui fait la particularité de ce manga, c'est que du coup, c'est donc une préquelle à Astro Boy. Mm-hmm. Parce que, bon, je vais résumer Astro Boy pour ceux qui l'ont pas vu, parce que ça fait quand même un petit peu longtemps, quoi.
Ouais.
Il y avait Tenma qui avait créé Astro Boy parce que son fils était mort et que du coup, il avait voulu le ressusciter. Mais au final, il a abandonné Astro Boy comme une merde parce que bon, il remplacera pas son fils quoi. Et du coup, bah, Oshanumizu, il a recueilli Astro Boy et on a fait une sorte de petit super-héros, on va dire.
Guerrier.
Et donc là, c'est une préquelle où on suit le passé de ces deux scientifiques qui collaborent ensemble. Sauf qu'à l'époque, bah, le truc, c'est qu'ils sont pas très connus. Ils sont pas très connus parce qu'ils ont qu'un petit labo. Mais ils ont quand même créé un robot qui a une conscience humaine et c'est nouveau. Du coup, on pourrait croire qu'il deviendrait célèbre et que tout se passerait bien. Mais comme par hasard, un autre robot de conscience apparaît. Il n'est pas très gentil. Il n'est pas aussi gentil que le robot qu'ils ont créé, qui s'appelle A106, ou 6 pour les intimes. Parce qu'en fait, il veut... Parce qu'en fait, il va foutre une espèce de grosse baffe robotique à la sœur de Tenma. Et du coup, bah, ça va la blesser, hein. Et puis il va se barrer après. Voilà. Comme un lâche.
Oh, calme.
Du coup, bah, les deux héros, ils vont donc essayer de trouver. C'est quand même qui ce mystérieux robot, quoi. Et puis c'est qui l'a créé, pourquoi, tout ça. C'est quand même étrange. Hein?
Hein? Tu sais, j'avais. Ah, c'est
qui
étrange.
Puis il se barre. Et donc après, bah, il va se passer plein d'aventures. Ils vont le retrouver dans un tournoi, tout ça. Mais je vais pas spoil, quoi.
Est-ce qu'il y a Dragon Ball Z au milieu aussi? Oh, il y a Goku.
Il y a plein d'univers, il y a Yamcha.
Ah, c'est pour ça. Bah, il s'est fait tuer au bout de combien de pages?
Une.
Ah, c'est ce que je me disais. Il apparaît déjà, il est mort.
Donc, et le truc, c'est que en fait, j'aurais bien aimé continuer plus loin, mais vu qu'il n'y a que 3 tomes sortis en France, on se serait très rapidement un spoil. Donc, voilà.
Nous fais pas une Lorato.
Alors, mon avis quant au manga, c'est que franchement, pour l'instant, j'aime vraiment la tournure qu'il prend, en fait. Déjà parce que j'ai une petite fille nostalgique, vu que j'avais beaucoup regardé Astro Boy quand j'étais petit. Du coup, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien.
Tu t'es vraiment dit ça comme ça?
J'avais Solaire approuve.
J'avais la même voix. Et du coup, bah, en plus, on reconnaît facilement les personnages comme Oshanumizu, qu'on reconnaît face à son gros nez distinctif.
C'est vraiment un nez dégueulasse.
Ouais,
dire.
Franchement.
Et j'en ai vu des nez dégueulasses dans ma vie.
On l'appellera Thomas.
Et j'en vois encore aujourd'hui. Hein.
Et puis il y a un duo très intéressant avec Tenma. Dans le sens où en fait, les deux essayent d'améliorer 6, mais de façon différente. Vu que Tenma essaie d'en faire une arme. Alors que Oshanumazu, lui, essaye d'en faire un ami.
D'accord.
Mais en même temps, ils se...
le pauvre
c'est mignon, enfin presque.
Mais en même temps, ils se complètent vu qu'ils apprennent à 6 tout un plein de choses. En fait, ils l'éduquent en quelque sorte.
Attends, c'est très étrange dit comme ça.
Non, mais...
comment ils apprennent à 6 à 2 là
Ils apprennent la vie, genre, tu vois, ça c'est un arbre.
Ah d'accord.
Et fait un petit
arbre de vie.
Yggdrasil encore une fois.
Et puis aussi
complot.
Les personnages secondaires aussi sont attachants. Et puis ils servent vraiment tous à l'histoire en fait. Il y en a pas là qui sont juste là pour remplir des vides. Il y a pas Yamcha quoi.
Ouais. ni Krilin qui est là pour mourir en boucle et se faire ressusciter.
Et au niveau du dessin, c'est comment ?
Alors les dessins justement. En fait, à première vue, on pourrait croire que les dessins ils sont pas incroyables. Mais en fait, l'auteur a repris les dessins originaux de Osamu Tezuka. Enfin, sa patte artistique en tout cas. Vu que si on compare les deux œuvres, franchement, c'est les mêmes dessins, c'est les mêmes têtes, que ce soit au niveau du décor ou des personnages, vraiment, ça se ressemble vraiment.
Donc on est sur vraiment quelque chose de nostalgique en fait au niveau du
dessin. Ouais, voilà. Il essaye beaucoup de faire passer la nostalgie à travers ça.
C'est profond. D'accord.
Après, pas de remarques sur ça.
C'est pas la première fois que on avait justement le thème de Astro Boy qui revenait. Il faut savoir que vous avez aussi un manga qui s'appelait Pluto, qui était sorti il y a quelques années chez éditeur Kana, qui raconte une histoire d'Astro Boy. On a Astro qui est refait. Et c'est vrai que là, c'est super intéressant d'avoir, on va dire, un peu les origines.
D'ailleurs, Pluto a été fait par le même mangaka qu'a fait Atom, justement.
Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est vraiment passionnant. Et si tu devais lui mettre une note, alors, ce serait combien ?
15 ou 16, franchement.
Ah, faut choisir, 15 et demi
alors. 15. Ouais.
15. Le size.
Okay, 75.
D'accord. Voilà.
Eh ben allez, on l'appelait très fort. Oui, donc voilà, c'était un joli dossier sur Atom The Beginning. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé justement le nom. Parce que par exemple, vous avez certains mangas comme par exemple Albator qui est sorti en France il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont gardé le nom Albator. Mais donc du coup par rapport à Atom, ils auraient pu appeler ça Astro The Beginning.
Pourquoi pas Atom le petit robot.
Mais bon, en tout cas voilà, ça donne envie et vraiment lisez ce manga. Surtout que je trouve que les œuvres de Osamu Tezuka, bon même si là c'est pas vraiment lui, gagne à être connu, surtout en France, parce qu'au Japon c'est un dieu vivant, non il est mort. Mais bon, voilà, c'est vraiment vraiment c'est incroyable quoi. Japon, quoi, je veux dire, ce qu'il a fait, ça a posé vraiment toutes les bases du manga. Et bon, Astro le petit robot, c'est vraiment une solidité là-bas quoi. Non mais c'est vrai, hein, tous ces travaux, c'est un truc de fou. Je veux dire, rien que la narration c'est du manga, du shonen, c'est lui quoi.
Genre les codes du shonen en fait, c'est Astro Boy concrètement. Un héros qui apprend à se connaître et qui évolue au cours de son parcours initiatique, etc. Enfin, c'est totalement les codes du shonen.
Enfin bon, tout ça vous découvrirez justement en lisant Atom The Beginning. Et donc, on va passer tout de suite à un autre type de dossier. C'est le dossier jeux vidéo. Et donc pour le dossier jeux vidéo, et ben c'est moi-même qui vais m'en occuper. En vous parlant d'un jeu qui est sorti. Alors, d'un côté il est sorti il y a longtemps, d'un côté il est sorti il y a pas si longtemps. Qu'est-ce que ça pourrait être alors ?
Portal.
Ouais, c'est ça.
Mega Drive.
Hein ?
C'était le truc sur Mega Drive.
Là, faut trouver le nom.
Mega Man.
Attends, je vais trouver.
Mega Man
sur Mega Drive, bien sûr.
Cool Boy.
Il était sorti sur Mega Drive. Hein.
Non, c'était ça s'appelle quelque chose Boy, je crois, mais je sais plus le titre.
Boy,
Super non, Boy.
Astro Boy, Wonder Boy,
Boy, voilà, Boy, Boy. Ah, et ben point pour notre chevalier solaire. Et pas pour l'autre. Mais plus quoi encore. Ouais. Donc,
l'autre.
Je vais vous parler de c'est Wonder l'autre. Boy, voilà. Dont le titre complet c'est Wonder Boy The Dragon's Trap. Et techniquement c'est Wonder Boy 3, parce que faut savoir qu'il y a des Wonder Boy, il y en avait plusieurs. Et Wonder Boy était un peu à l'époque de Mega Drive, bon, son côté Sonic, hein, qui est vraiment voilà, la mascotte pure et dure. C'était un peu aussi l'équivalent du. C'était un peu le Mario de la Mega Drive. Dans le sens où c'était vraiment de la vraie plateforme. Tout ce qui est le plus simple, hein, c'est-à-dire que voilà, vous aviez les plateformes, vous sautez, vous donnez des petits coups d'épée. Alors la portée du coup d'épée est vraiment ridicule, hein, je vous jure. Hein. Limite, il est à côté de vous. Enfin. C'est faut vraiment apprécier les jeux d'époque quoi, avec des sauts aussi voilà, plus que douteux. Mais bon, ça c'était c'est le charme qu'il y avait à ce moment-là.
Et donc Wonder Boy avait très bien marché à cette époque, même si c'est pas forcément la saga la plus connue au Japon, beaucoup plus qu'en France. Mais bon voilà, en tout cas, si vous avez un Mega Drive, c'est vraiment une saga par laquelle il faut passer, parce que ce qui était bien aussi avec Wonder Boy, c'était l'univers. C'est voilà, c'est totalement féerique, vous avez plein de d'animaux tirés de la mythologie, surtout japonaise, c'est pour ça que ça fait du bien de voir des jeux comme ça qui sortent en France. Et justement, faut savoir qu'il y a un studio français qui s'appelle Lizard Cube, et c'est eux qui ont fait justement tout le remake de Wonder Boy. Et faut savoir qu'ils ont fait un travail mais absolument titanesque. Sincèrement, j'ai vu beaucoup de remakes, et c'est sans doute un des plus jolis que j'ai vu de ma vie, parce que c'est hallucinant. Franchement, on a l'impression de jouer à un véritable dessin animé, enfin une bande dessinée, c'est parce ça, que en fait on a l'impression de voir un peu un style limite de BD franco-belge, et je trouve que ça passe super bien, quoi, tout en gardant justement vraiment l'essence même de Wonder Boy, quoi. Alors au niveau du principe, je vous ai dit comment ça fonctionnait, hein, jeu de plateforme classique, vous avancez, vous tapez. La particularité de Wonder Boy, en fait, c'est qu'on contrôle un personnage qui peut se transformer en plusieurs créatures. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, vous avez le personnage, voilà, qui a son petit bouclier qui sert un peu, voilà, c'est juste rien. Pour la déco, hein, c'est histoire d'être dans, voilà, d'être dans le style. Et voilà, il a sa petite épée qui, comme je l'ai dit, a une portée ridicule. Par contre, en fait, il peut se transformer en d'autres créatures. Donc, par exemple, vous avez l'oiseau qui peut évidemment s'envoler. Vous avez l'homme poisson, du coup, pour tout ce qui est partie maritime. Vous avez la souris qui a la possibilité de grimper sur les murs. Enfin bref, voilà, vous avez plusieurs personnages comme ça. Vous avez le dragon, évidemment, qui crache du feu. Et tout ça, ça apporte un petit plus au niveau du gameplay. Même si je pense que les personnes qui ont découvert le jeu vidéo récemment vont trouver que c'est totalement ridicule, quoi. Vous direz, ah bah super, on sait que ça existe juste parce que le mec il peut pas cracher une boule de feu. Faut savoir qu'à l'époque c'est révolution, quoi. Limite, il fallait mettre des lunettes tellement on était impressionnés. On fait waouh, les flammes! Alors qu'en fait, c'est, voilà, c'est rien du tout, quoi. Mais bon, ça fait super plaisir, voilà, de justement de pouvoir changer de forme avec le personnage, ce qui apporte un petit plus au niveau de la durée de vie. Et justement, je vais commencer avec un des points faibles, et ben c'est justement la durée de vie. La durée de vie qui est très pauvre, hein. Si vous allez, on va dire, en totale ligne droite, je pense que en 3 heures, vous pouvez plier le jeu, quoi. Évidemment, pas en le finissant à 100%, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas comme si il y avait 20 000 trucs cachés. Mais bon, voilà, vous avez possibilité évidemment de refaire le jeu en mode plus difficile ou autre. Ce qui vous rappelle, ramène un peu de challenge. Après, par contre, c'est parfaitement le genre de jeu qui se prête à des styles comme le speedrun.
Et, tu vas y arriver.
Et franchement, voilà, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a. Voilà, vous en aurez pas forcément pour très longtemps. Par contre, alors au niveau des plus, comme j'ai dit, eh ben c'est au niveau des graphismes où là c'est féerique. Franchement, c'est énormissime. Il faut que vous alliez voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Après, évidemment, avec les graphismes, vous avez l'animation qui est exemplaire, hein. Je vous ai dit quand je vous parlais d'un véritable dessin animé, c'est vraiment le cas, quoi. Franchement, vous avez un plaisir visuel qui est incroyable, quoi. Après, évidemment, vous avez le plaisir de retrouver toute cette période-là, voilà, c'est bon vieux jeu de plateforme à l'ancienne où vous prenez pas du tout la tête, ou si vous prenez la tête, et ben je sais pas sur quoi, mais en tout cas, voilà, peut-être sur la pauvreté des voilà de la palette pauvreté. De coups pour ceux qui sont pas habitués, mais sinon d'un point de vue de la nostalgie, c'est génial, quoi. Et justement, pour pousser encore au summum la nostalgie, vous pouvez switcher en fait quand vous voulez du mode de jeu actuel, c'est-à-dire la version remasterisée, à la version de l'époque. Celle de la Mega Drive. Et franchement, c'est voilà, ça fait bizarre. Après, c'est hyper fun, je trouve, de faire ça, voilà, de vous switcher, mais vraiment inventer des fois, vous vraiment toutes les deux secondes, vous allez switcher juste histoire de voir
dans le jeu directement, parce que moi je croyais que c'était genre tu peux lancer le vieux jeu en fait.
Non, tu peux justement switcher comme ça d'un coup et ça fait plaisir.
Genre tu fais non, cette boule de feu va me toucher, je switch comme ça, j'ai
un bon. Il y aura toujours un boule de feu, quoi. C'est juste que ça sera vraiment une boule sans effet, quoi.
D'accord.
Enfin bref, vous avez les musiques aussi qui ont été retravaillées, ça c'est quand même plutôt cool, même s'il y a la possibilité voilà d'avoir les musiques d'époque, mais je trouve que voilà, ça fait du bien de voir ces des chansons que t'as connues à l'époque et de les voir en version retravailler, ça fait toujours plaisir. Et aussi un gros avantage, c'est le prix, parce que évidemment ils n'avaient pas vous vendre
70 euros, 5 000 dollars.
Alors Évidemment, c'est vendu à moins de 20 euros. Vous avez compris que c'est à 19,90.
Voilà.
C'est et voilà. Mais après, pour un jeu comme ça, je pense que ça vaut. Voilà, ça vaut la peine. Et moi, ce que je vous conseillerais, parce que c'est vrai que surtout pour les jeux de l'époque, j'adore toujours avoir le format physique, c'est-à-dire avoir la boîte du jeu et autres. C'est toujours un petit plus pour moi, plutôt que les versions digitalisées. Donc, du coup, apparemment, vu que le jeu a un très très bon accueil, ils ont décidé de sortir la version boîte qui devrait sortir dans pas longtemps. Alors, on n'a pas encore de date exacte. On ne connaît pas le prix exact. Alors, ça sera sur PlayStation 4, Xbox et peut-être une version Switch aussi. Donc, voilà. D'accord. Et évidemment.
Sur Switch, je pense qu'il peut être très adapté justement avec ce côté mablette.
Ah, ça serait parfait. Le seul truc, c'est que sur la Switch, on n'est jamais trop sûr au niveau des tarifs. Nintendo peut impliquer.
S'il est à 20 ou 40.
Ah, voilà. S'il est à 40 euros, ça ferait quand même un peu mal aux fesses, j'ai envie de dire. Quoi. Mais bon, c'est un très 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 bon jeu qui va vous amener à du bon temps, j'ai envie de dire. Il ne faut pas vous attendre à quelque chose d'énorme. Mais c'est le genre de jeu que vous faites sans vous prendre la tête et rien que pour ça fait du bien quoi.
Même
donc si je vais lui mettre une note,
découvrir ça aux enfants, en fait.
Vous
pouvez même faire découvrir ça aux jeunes, aux enfants, aux
à n'importe
c'est
qui.
C'est parfait.
Ouais. C'est une bonne introduction aux jeux vidéo.
Voilà,
quoi. Voilà. Et donc pour lui mettre une note, alors moi je lui mets un 16 sur 20 tout simplement parce que je prends en compte le fait que ce soit un remake. Donc c'est difficile de lui mettre une super bonne note sachant que c'est un jeu de l'époque et que quelqu'un qui découvre ce jeu-là alors qu'il a une bonne culture de vidéo, ça va quand même lui faire un peu mal aux mains quoi. Mais bon, sinon c'est un très 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 bon jeu que je vous conseille à tous. C'est la nostalgie pure et dure et c'est tout pour le dossier. Voilà, merci bien.
Allez, le remake de Ghosts and Ghosts.
Ah mais de toute façon,
ça serait parfait,
c'est dingue parce qu'il y a plein de jeux où on pourrait attendre le remake.
Hein. C'est extrêmement bien fait en fait.
Là par exemple, rien qu'au niveau des jeux de plateforme de l'époque, pas forcément de plateforme, mais toute la culture des jeux 2D, on a quand même des sommités qui sont sortis à l'époque de la Super Nintendo, de la Nintendo, de la Mega Drive. Plein de jeux qu'on aimerait redécouvrir. Et ce qui est bien, c'est que en fait j'ai surtout été fier que le jeu a été fait par un studio français parce qu'on a vraiment un savoir-faire en France par rapport aux jeux vidéo qui est vraiment hallucinant quoi. Alors après c'est vrai qu'on fait mis à part nos grands studios, on fait beaucoup aussi de sous-traitance. On travaille beaucoup avec d'autres studios, mais je veux dire par exemple la Mini NES, faut savoir que c'est les Français qui l'ont fait. Là en l'occurrence je veux dire quand on voit la qualité, le fait que ça vienne de France, et ça fait plaisir quoi. Donc voilà,
c'est des jeux qui tendent à être connus, franchement.
Ah mais complètement
bien
quoi.
Sûr. Mais même je dirais un truc tout bête, en fait on a une grosse société de jeux vidéo qui est souvent sous-estimée, c'est Ankama en fait. Regardez Ankama Games, c'est une société d'édition à la base.
Ankama, je pense que c'est 4, une des sociétés dont on peut être le plus fier aujourd'hui.
Ils ont créé un des RPG les plus joués en France et qui s'exporte très bien dans le reste du monde.
Et même après, il faut parler de l'animé, il y a eu le film d'animation qui était super, il y a eu les BD.
Il faut
savoir qu'ils sortent des bandes dessinées aussi, ils sont devenus éditeurs. Donc rien que pour ça, moi je dis bravo quoi. Bon,
chapeau.
Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'attaquer alors avec le dossier que j'attendais, tout simplement parce qu'il va parler.
Je te cueille.
Non, je fais pas ça.
Ça c'est parfait.
Allez, vas-y, viens, on zappe le dossier, on part directement
Allez,
au jeu. Là il me regarde avec ces yeux de chien battu, j'ai envie de dire. Enfin, on va éviter ce mot-là, ça peut faire plaisir. Donc du coup, c'est notre ami Abbé Pielu qui va vous parler. De l'événement. Voilà, tout simplement, c'est l'événement de l'année en matière d'animation. On peut pas passer à côté. Et si on veut passer à côté, c'est vraiment. Allez, c'est parti pour le dossier d'Abbé Pierrot qui va vous parler de.
Your Name.
Oula, c'est. Alors, c'est absolument dégueulasse.
Your Name.
Your Name.
Allez.
Heureusement que tu lis en japonais.
Donc, Your Name. C'est parti. Allez.
Alors, le point commun entre la tour de la nuage, 5...
Les tours de la nuage
ou la tour au-delà des nuages,
okay.
5 cm par seconde et le voyage vers Agartha.
Ouh là là, c'est très bizarre.
C'est une personne qui s'appelle Makoto Shinkai.
D'accord.
Et ce gars, c'est un auteur de films d'animation qui tend vraiment à être connu. Et il a fait un peu son film qui a beaucoup plus marché que tous les autres. Et vraiment une petite pépite, on va dire, surtout pour les Japonais et un peu pour les Français, qui s'appelle Your Name. Donc, c'est un film d'animation. Il est sorti en décembre 2016 dans les salles françaises. Et c'est c'est une romance, mais derrière, c'est dramatique. Et il y a vraiment une double intrigue.
les spectateurs vraiment français, ont kiffé, ont adoré ça. Donc l'histoire, c'est on a deux personnages, donc une fille qui s'appelle Mitsuha, c'est une compagnarde assez traditionnelle. Elle vit à la montagne, il y a aussi Taki, c'est un étudiant de Tokyo occupé à sa petite vie urbaine. À travers le rêve, enfin Mitsuha et Taki échangent leur corps et leur vie. Et donc Mitsuha, vu qu'elle rêve de vivre absolument dans une ville, et ben elle fait la vie qu'elle rêve d'avoir de manière naturelle. Donc en fait, ce film, il raconte vraiment l'histoire de leur relation. C'est en fait, franchement, qu'on aime pas ou qu'on aime l'animation japonaise, ce film, en fait, il est visuel pour tous. C'est pas un gros blockbuster français, mais
contrairement à beaucoup d'animés récents, notamment japonais, en fait, il est pas violent, il est vraiment tout public.
Il est vraiment tout public pour tout le monde.
Contrairement à Un garçon et la bête, où là, je le déconseille aux enfants.
Il y a pas de public restreint. Et en Japon, il est resté au box office. Il est rentré au box office devant les films des studios Ghibli. Et pour ça, il faut faire fort.
Ah ouais. Il a détrôné Le Voyage du Chihiro, en fait.
Ouais.
Juste ça. Voilà. Qui est là depuis 2001 et qui est intouchable.
Il a détourné un domaine.
C'est exactement ça.
Il aurait même dépassé Bye Bye Black, qui restait la référence, j'ai envie de dire. Ouais.
Ah, mais
et l'attaque
totalement.
Des lunettes noires.
Non, il est pas encore.
Alors, qu'est-ce que tu peux me dire encore?
Pourquoi aimer ce film? Parce qu'il y a beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de points négatifs, même beaucoup de points positifs. Je veux dire.
Tu peux nous dire l'histoire rapidement, très rapidement? Ah, ok, d'accord.
On sent les gens qui suivent.
On sent les gens qui suivent. Pourquoi aimer ce film? Parce que déjà, en termes d'animation, c'est très bien foutu. C'est franchement, avec l'animation, on peut faire mais vachement de trucs. On peut faire des jeux de mise en scène avec un grand dynamisme. Et une démarche franchement artistique dans ce film. On le sent. Le film, en fait, avec cette démarche artistique, il arrive vraiment bien à retranscrire les psychologies internes des personnages. Et vraiment, on suit leur vie au quotidien. Et on pourrait dire qu'on suit leur vie dans le film. C'est au rythme de la vie, on peut dire.
T'as vraiment une immersion totale, quoi.
Une immersion totale, exactement. Franchement, donc il y a un travail de l'image, la netteté. Donc aussi, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les thématiques abordées, que les Japonais ont vraiment adoré, et que à tel point qu'ils rentrent au box-office, et qui est vraiment intéressant à aborder. Donc en fait, le thème, un des thèmes principaux que je vais aborder, c'est un choix, c'est le temps qui passe. Il y a la question de l'oubli, le mélange entre l'ancien et le nouveau Japon. En fait, franchement, c'est un débat entre modernité et transmission du savoir. Je m'explique. En France, en fait, comme au Japon, en fait, tout va vite. Il y a des nouvelles technologies, nouvelles voitures, nouveaux jeux, tout est mieux fait. Et la ville, et donc Makoto Shinkai, prend en compte ce phénomène. Et la ville, chez lui, est assez sublimée. C'est-à-dire que tout est étincelant et tout est beau, tout est très bien travaillé, tout est neuf, voilà. Ça donne vraiment envie d'aller à Tokyo, principalement. En fait, tout va très vite. On voit Taki qui prend les transports en commun et franchement, c'est Makoto Shinkai, en fait, c'est quelqu'un qui maîtrise les moments où il se passe pas grand-chose. Le personnage est dans les transports en commun, mais ça montre sa psychologie, ça montre vraiment, ça met un appui sur un côté
c'est la narration, en fait, elle est continue, mais vraiment dans tous les instants de l'œuvre.
C'est-à-dire
que vous avez un moment où vous dites ça va être un moment mort, mais en fait non, vous allez apprendre sur le personnage, sur la ville, sur quelque chose autour de lui, un petit truc, un détail de l'intrigue qui peut vous échapper si vous vous arrêtez là. Là, en fait, il va être très important, il va être mis là alors qu'on s'y attend pas.
Oui, c'est ça son chef-d'œuvre. Enfin, pas son chef-d'œuvre, mais vraiment ses points forts. En fait, il a tout développé dans les autres films, et tous les points positifs que je trouve qu'il a fait dans les autres films, eh ben, il les a réunis dans ce film. Ensuite, donc ça c'est pour la ville. Ensuite, il y a la campagne. La campagne est d'une beauté et une pureté poétique qui vraiment que même l'auteur le dit. C'est quelque chose qui ressemble. Makoto Shinkai voit la nature un peu comme Hayao Miyazaki. Il la sublimise et sublime. Et en rend quelque chose d'onirique, surtout avec une certaine scène de volcan, j'en dis pas plus. La campagne, en fait, et par rapport à la ville, on voit bien qu'à la campagne, on prend le temps. C'est vraiment ce débat entre modernité et tradition qu'il y a
aussi. Tu sais que c'est un truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est que les deux, en fait, la ville et la campagne sont sublimées, en fait. Il n'y a pas de préférence, en fait. Voilà, les deux sont vraiment bien présentés. C'est pas genre la campagne et c'est nul et
oui.
Puis la ville,
c'est pas l'un
bien,
contre l'autre, en fait.
Il n'y a pas de parti pris, ouais. C'est ça.
c'est les deux sont là, ils sont pas pareils, ils sont pas opposés pour autant, ils sont pas incompatibles, mais c'est deux manières différentes en fait de vivre le Japon. Mmh. Et les deux sont poussés à l'extrême, ouais. Et c'est très très beau.
Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut adapter à la France avec notre campagne et nos grandes villes qui se développent. C'est après bien sûr c'est un univers tout très japonais, mais j'ai vu certains points communs où on pourrait faire le. Sauf que je pense que la France est beaucoup plus tournée vers les villes et pour les zones urbaines.
On va dire que en fait la tradition de la campagne en France, elle est pas tout à fait, enfin pas poussée au même niveau qu'au Japon.
C'est vrai.
C'est-à-dire que quand tu vas dans une campagne française, tu vas pas retrouver ces côtés très traditionnels, assez anciens, les méthodes anciennes, etc. En fait, tout a tendance à se moderniser, plus ou moins vite, mais tout se modernise.
Ouais,
au Japon,
t'as
vraiment ce côté culturel très 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 vraiment à l'ancienne en fait, ou qui est perpétré par les anciens.
Mais c'est un effort.
En France,
hein.
Oui, c'est un effort, c'est un vrai effort culturel, mais en France, on l'a pas. Et c'est d'ailleurs c'est un peu
d'ailleurs
triste,
je trouvais c'est dommage oui
ouais, c'est un peu triste mais
du coup mais du coup ce film est très dynamique, que ce soit dans les il y a des scènes, c'est un film vraiment on se pose, on écoute et on regarde.
Ah, parce que tu veux faire quoi en même
réellement,
on caresse son ami,
on prend plaisir, pas, prendre le temps d'envoyer des textos, des choses comme ça en fait. Ou alors tu m'en poses, mais si tu m'en poses tu peux sortir du film, mais t'as pas envie de sortir.
Franchement, et oui, et il y a quelque chose que je trouvais pas mal, qui a très bien marché au Japon et qui est assez spécial ce film, c'est les interludes musicales ou les passages vraiment musicaux qui sont assez puissants, assez dynamiques et qui montrent vraiment cette notion du temps qui passe et
ça donne une narration uniquement par l'image en fait. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien, vous avez toute la musique qui donne l'ambiance en fait, le moment, et vous avez que l'image en fait qui vous raconte l'histoire et c'est quelque chose d'assez, ouais, c'est vrai que c'est particulier.
Ça peut sembler assez complexe, assez déroutant pour des Français parce que c'est assez rare même dans un film tout court ou dans un film d'animation d'avoir ces moments musicaux, mais Makoto c'est quelqu'un qui innove beaucoup dans son domaine. C'est est quelqu'un qui commence de plus en plus à se démarquer, à se faire remarquer et il mérite, tu vois, je pense son prestige.
Mais moi j'aime bien cette vague de on va dire de nouveaux réalisateurs japonais justement. C'est vrai qu'à l'époque de Miyazaki, on se demandait qui allait reprendre le flambeau. Souvent on parlait de son fils Gorō, voilà, qui avait fait des films qui étaient plutôt sympas, notamment la Kuni no Kokiko que moi j'ai adoré. Mais c'est vrai que là on a quand même des réalisateurs comme tout d'abord celui dont on parlait,
Mamoru Soda,
qui est absolument énormissime quoi. Il nous a prouvé en 4 films qu'il avait rien à envier à Miyazaki là sur le coup là. Et là du coup maintenant on a lui qui, c'est vrai qu'à l'époque sortait des longs métrages qui peinaient à être connus à l'international, mais alors avec Your Name en fait ce qui est vraiment différent par exemple avec Mamoru Soda, c'est que tu prends par exemple ces 3 derniers films, Mamoru Soda, je pense qu'ils ont à peu près, tu vois, le même niveau, même au niveau de l'investissement, je veux dire. Par contre, celui-là, tu compares avec les autres, on a l'impression qu'on lui a dit, vas-y, allez, tiens, prends le fric, fais-nous un film de ouf. Et fais une tuerie, quoi. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je pense que c'est ce qui lui manquait aussi, c'est d'avoir des moyens, tu vois, qui soient à la hauteur de son talent, de son génie. Et ça a été du lourd, hein.
Mais il l'a dit, Makoto, il l'a dit vraiment. Là, on m'a donné un financement et j'en ai voulu faire ce que je voulais. Ouais. Et même le gars, il pensait que déjà que son film, il allait être encore plus développé, encore plus grand.
Ouais.
Et donc il promet qu'il le refera dans les films prochains.
En fait, j'ai l'impression en fait que il est encore jeune en fait en tant que réalisateur, en tant que créateur d'œuvres, et en fait chaque une de ses œuvres va lui apprendre quelque chose et il va le mettre dans les suivantes, etc. Et il tend encore à évoluer et c'est vachement prometteur. Ça peut vraiment apporter quelque chose d'assez magnifique.
De toute façon, on verra ça dans le futur. Et si tu veux lui mettre une note à Your Name,
est-ce que tu aurais envie de
lui mettre 20
en tant que japonais? J'ai envie de
dire
20
en tant que japonais, quoi.
Mais en tant que français,
en tant que
français, je mettrais un 18. Mais voire un 19.
Pourquoi?
Pourquoi en tant que français,
pourquoi tu lui retires
un
point?
Pourquoi je retire pas le point? Parce qu'en France,
parce qu'il est jaloux.
Non, on a pas les mêmes. Il y a des avis qui diffèrent. Moi, je personnellement, je kiffe ça énormément. Mais j'ai lu de nombreuses critiques, etc.
Après, c'est ton avis à toi.
C'est mon avis personnel, oui.
Donc après, t'as pas besoin dans ton avis.
Le seul point négatif, je pense, dans ce film,
c'est qu'il y a pas l'X2000.
tout simplement.
Mais fallait
non,
pas dire.
Il y a pas, franchement, il y a un seul point négatif, c'est que parfois on n'arrive pas à comprendre. Certaines scènes. Mais
en fait, c'est...
si on passe au-delà.
C'est une narration implicite en fait. C'est très japonais en fait. On n'a pas la même culture de la narration, etc. Du coup, forcément, il y a des conflits.
ça c'est des paysans pour comme format.
C'est ça, exactement.
D'accord. Mais en tout cas, 18.
Ok, et bah allez, on l'applaudit plus fort. Moi je vous dis en toute honnêteté, hein, et je sais que je suis assez compliqué au niveau des notes. Franchement, moi j'aurais mis 20. Je sais pas quoi lui reprocher, si ce n'est, je t'ai dit, l'absence d'Alix 2000. Mais franchement, à part ça. Allez, donc du coup, c'est tout pour le dossier d'Abbé Pielou. Et ouais, qui était bien sauf la note. Et donc, du coup, maintenant, on va faire un peu de sortie, donc, voilà, histoire de revenir sur ce qu'on a découvert cette semaine. Alors, donc du coup, au niveau des sorties, on va commencer par une sortie Glénat avec les enfants de la balette numéro 7. Falena et ses habitants continuent leur traversée vers l'inconnu ou les terres d'Amoguya, traversant en chemin les parois du temps. Qui rencontreront-ils au milieu des sables? Ensuite, les sorties Kana avec Atom The Beginning numéro 3. Ça doit vous rappeler quelque chose. Si ça vous rappelle rien, ça craint. Alors, Astro Boy n'est étranger à personne, mais connaissez-vous parfaitement son histoire? Savez-vous de quelle manière a débuté la légende de ce petit robot que nous connaissons tous si bien et qui est aujourd'hui une référence incontournable de la culture manga? Et c'est ce que vous va proposer la fameuse série Atom The Beginning. On continue avec les sorties Kazé, s'il vous plaît.
Terraformas volume 18. Planète Terre, un an après le retour de la mission Annexe 1, parmi les survivants de l'équipe japonaise, certains ont choisi de poursuivre le combat contre la vermine rampante en intégrant la société privée Hajime Security. Akari, désormais chef de patrouille au siège Tokyo Hit, protège donc la population qui ignore tout de l'existence des Terraformars, dont la menace se fait de plus en plus prégnante. Différent des Kafa martiens, ceux-ci semblent avoir un plan pour l'humanité. En effet, des milliers d'habitants ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. La guerre se fait désormais à domicile.
Ok, ensuite les sorties Pika.
Ex-Human volume 3. Peu après avoir réussi à secourir Moimiji, Kagero voit surgir devant lui un gigantesque Dross. Fermement résolu à avoir le dessus sur ce redoutable ennemi, le jeune garçon n'hésite pas à consumer sa force vitale durant leur combat. Mais les événements vont prendre une tournure des plus inattendues.
Sortie Tonkam, s'il vous plaît.
Alors, nous avons Kissim Not Me volume 9. Grâce à la participation de tous, Shinomiya parvient à se débarrasser du stalker qui le traquait. Pendant ce temps, l'anniversaire de Kei se rapproche, tout le monde se plie en quatre pour trouver ce qu'elle demande, mais seul Igarashi n'arrive pas à dénicher ce qu'il était censé dégoter. C'est alors que le soir de son anniversaire, il appelle Kei en secret.
Ok, sortie dès le cours, ton cam.
Ah, on a une perte de cerveau.
Food Wars.
L'étoile volume 3, Kojiro. Kojiro est quasiment emmené de force dans une ferme par une jolie et mystérieuse Sylvette. Surgit de nulle part. La requête...
Ça se passe en France, hein, faut le rappeler.
La requête de la jeune fille est simple. Kojiro devra préparer un gazpacho avec les légendaires poivrons rouges cultivés par Anna Barholt, une grande maraîchère. Malheureusement, la fameuse Anna semble particulièrement froide à l'écart des Japonais.
Allez, on finit avec les sorties soleil.
The Legend of Zelda, Majora's Mask et A Link to the Past. Dans Majora's Mask, Link part à la recherche de Navi, sa fée dont il a été séparé lors de son dernier combat contre Ganondorf. Il croise alors le chemin d'un curieux personnage masqué nommé Skull Kid. Dans A Link to the Past, Link est appelé à l'aide dans son sommeil par Zelda, la princesse du royaume d'Hyrule. Elle a été faite prisonnière par Agnim au service du tyrannique Ganondorf.
Ok, et c'est tout pour les sorties. Wouhou. Allez, donc maintenant, il est temps de finir avec le fameux jeu de
Tokyo.
Alors, les mêmes équipes que la semaine dernière, sauf
ah non.
que cette fois-ci, c'est l'équipe de Capi qui va commencer.
Ouais, j'avoue.
Allez, donc je veux un film d'animation qui est sorti ces deux dernières années.
Your Name.
Ouais. Ensuite,
Le Garçon et la Bête.
Ouais.
Et voilà.
Silent Voice.
Ah,
en France ou
Non, de partout.
Silent Voice.
Ok.
Naruto The Last.
Je sais pas si t'es deux ans. Hein.
C'est l'année dernière.
Il y en avait un autre.
Moi j'en ai un pour après.
Bah non, c'est pas Naruto The Last qui est sorti récemment.
C'est Boruto.
Bah voilà. J'ai aidé quand même. Hein. Allez, à vous. 10. 9.
Le One Piece Gold.
Ouais, bien vu.
Le film SAO.
Ouais. Bien vu.
Le film Fairy Tale.
Il est pas sorti encore.
Qui a fait un flop.
Ah si, il est sorti.
Il est sorti.
Ah, il y en a qui prend plaisir là. 8. 7. 6.
Regarde-le là!
5, 4, 3, 2, non, j'en ai
pas. 1. Les chroniques de l'inspecteur Kadasu.
Bien essayé.
Et victoire encore de la team Capi! J'avais dit un film d'animation.
Oui, oui, mais
j'ai jamais précisé japonais.
Les Tortues Ninja.
Gastro Power Rangers.
Ouais, vous avez Rémi sans famille, quoi. Rémi sans famille, le film. De Last.
La Belle et la Bête.
Aucun rapport.
Tous en scène.
C'est pas un film d'animation.
By the Black Shippuden.
Oh,
j'achète.
On oublie les classiques.
J'adhère.
By the Black The Last.
Je télécharge, même pour dire plus. Allez, l'heure est venue de se quitter.
Oh,
yes. Yes.
Mais c'est l'équipe de Capi qui a gagné.
C'est bon, pas
allez, à mort. Donc, on remercie évidemment toute l'équipe, on remercie tous nos partenaires, on vous remercie vous chers auditeurs d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, Tokyo Yume un jour.
Tokyo Yume toujours.
Allez, bye bye, ciao.